Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Nous rencontrons aujourd'hui le violoniste Christophe Quatremer sous une pluie soudaine tombée sans prévenir qui nous a surprise à Flaine, en Haute-Savoie. La conversation était déjà engagée, nous la reprenons ici en cours de route. Elle est suivie de deux interprétations de Christophe Quatremer accompagnées au piano par Sylvie Barbary, la valse sentimentale de Tchaïkovski et la pièce en forme de habanera de Ravel. Nous appelons cet entretien au tempérament solaire, tant cela correspond à la personnalité de Christophe, généreuse, douce et habitée d'une lumière intérieure.
Une envie en fait de découvrir le monde, parce que je pense que ça enrichit énormément, ça fait évoluer, de voir d'autres cultures, d'autres écoles d'instruments, de musiciens, d'autres orchestres, de solistes, d'autres mentalités, ça ouvre énormément l'esprit et puis ça a un impact direct sur son jeu et sur les gens aussi. C'est la manière de voir les gens, parce que c'est vraiment un métier de communication et d'amour quoi, d'amour des gens. Et on ne joue pas bien seul. C'est vraiment quelque chose qui passe par les autres, et de découvrir. Donc c'est... En fait, j'étudie à Paris, mais très jeune en Suisse, puis aux États-Unis, et j'ai travaillé au Japon, et puis de là, forcément, c'est quand même des pays qui sont très loin, c'est pas juste l'Europe proche, donc on change complètement de civilisation, de culture. Et finalement, c'est aussi une remise en question. Au départ, c'est un rêve dans la tête, et ensuite, on arrive et c'est réel. Donc il y a quand même une remise en question, on se dit, wow, qu'est-ce que je fais là, quand même, ça devient réalité, donc c'est une remise, on doit tout refaire, tout recréer sur le moment, tout réapprendre. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a l'instinct aussi de survie qu'on doit avoir sur scène. L'instinct de survie qui fait que d'un seul coup, par exemple, moi, un exemple, là, quand je suis parti aux États-Unis, j'ai gagné un poste de violon solo. Enfin, j'ai déjà gagné à l'université, Roosevelt University, où j'ai étudié avec Wadim Guzman, une bourse full scholarship, on appelle. Mais aussi, j'ai été auditionné par Daniel Barenboim, mais j'étais violon solo, donc remplaçant pour les violons solo, contrat d'un an, du Chicago Symphony Orchestra. Donc effectivement, je suis arrivé aux États-Unis et je parlais très mal anglais, et il faut parler très vite. Donc j'ai eu une audition, etc., un an avant, quelques mois avant, bien sûr, avant de venir, mais... Et on ne sait pas, mais c'est magique, comme au Japon, et ben ça vient au fur et à mesure. Parce qu'on est obligé, qu'on est là, on est dans le vide. Et ça, c'est vrai que c'est très, très, très passionnant et ça fait surpasser.
Voilà, c'est ce que juste un plaisir. Alors, je couperai.
Moi, je veux bien un détox.
Il doit rester un.
Quelle chance.
Banane kiwi ou pas?
Un concombre banane kiwi.
J'ai toujours de la chance, c'est trop bien, merci beaucoup.
Et moi, je vais prendre un sirop citron, s'il vous plaît. Merci. Et oui, donc on est à Flaine, donc on est dans un café.
Oui.
Alors, des fois, on est interrompu, il y a la musique un peu autour.
Il y a de l'ambiance, il y a de la vie.
Et comment il est venu ce rêve de devenir violoniste?
Alors, c'est une très bonne question, c'est vrai, parce que bon, je pense que mes parents déjà sont passionnés de sport et de musique. Donc, ils voulaient de toute manière qu'on fasse de la musique et du sport, mais ils n'avaient pas prédéfini à l'avance, dire voilà, telle ou telle carrière. Ça faisait partie, on va dire, de l'éducation, voilà, de l'école de la discipline, de la rigueur, mais aussi de l'épanouissement, du développement de soi, tout un ensemble de choses, puisqu'il ne se mêlait jamais de ce que faisait le professeur, mais par contre, il guidait, il suivait. Au tout début, si ma mère enregistrait toutes les leçons, me faisait travailler, mais ça, c'était plutôt 7 à 10 ans. Et après, De toute manière, à partir de 11 ans, j'étais déjà en école à aménager musique-études, ce qu'on appelle musique-études. Donc j'allais à l'école tout seul, et faisais, ce qui est très bien aussi. Et il y avait une confiance. C'est un suivi, mais une confiance. Comment c'est venu? C'est venu qu'ils nous ont mis à la musique, on savait, moi, à 5 ans, 6 ans à peu près. Et puis, au bout d'un an, on essaie pas mal d'instruments, et j'ai choisi le violon, que j'avais déjà en amont entendu dans une émission de télé ou dans un disque que mes mères promettaient. J'avais reconnu le son, je voulais faire ça. Ils avaient mis et j'avais reconnu et j'ai essayé. Voilà. Et j'ai essayé d'autres instruments après aussi pendant des stages, parce que tout de suite on a fait tous les ans deux stages par an, surtout moi, donc l'hiver et l'été, ce qui était très très bien. Et parfois on avait l'occasion d'essayer d'autres instruments, professeur de saxophone, professeur de piano, de clarinette, ça m'intéresse aussi beaucoup. Mais ça a toujours été, voilà, je vais dans le violon, je suis passionné par ça, et très petit, déjà à 11 ans, 12 ans, je mettais le réveil pour écouter des émissions de radio, pour écouter des émissions, pardon, de radio la nuit sur David Hochstra, le ministre du début du 20e siècle. Donc dès qu'il y avait une émission, j'étais vraiment, on peut dire, un grand fou passionné. Chaque semaine, j'allais fouiller des disques. À partir de l'adolescence, j'allais 3 fois par semaine au concert avec un très bon ami qui est aussi un grand violoniste maintenant, Julien Chauvin, qui est un soliste, musicien complet, chambre soliste et orchestre. On allait souvent au concert.
Et là, c'est à Paris, vous allez au concert?
Oui, ou... alors oui, au départ, oui, cette formation était à Paris. Donc on allait au concert à Paris. Puis, au fur et à mesure, voilà.
Est-ce qu'il y a encore des horizons, merci, qui ne sont pas encore atteints?
Ah, mais tout de même, c'est infini. C'est infini, la recherche, elle est perpétuelle. Et alors c'est pas forcément dans le répertoire, mais c'est un tout, parce que je pense que pour être un bon musicien, pour être complet, il faut devoir avoir un large répertoire, toujours maintenir ça, chaque chose, chaque même formation, le quatuor, la musique de chambre, quatuor encore ou autre, trio, moi je vois avec ma formation en sonate, Sylvie Barbeau, la première, voilà, et puis même l'orchestre, l'orchestre de chambre, des bons sons, enfin, chaque chose apporte à l'autre, et donc l'évolution est bonne. Si on travaille en orchestre, si on joue après un concerto, on a l'oreille qui est bien plus approfondie au niveau harmonique pour retenir la pièce et pour se servir de la monnaie d'orchestre pour sortir. Donc c'est vrai que c'est un ensemble de choses. Des rêves, il y en a toujours, mais on évolue, on change. Moi, je répète une journée, le lendemain, ça a déjà évolué. Voilà.
Mais est-ce qu'il y a, par exemple, des compositeurs contemporains avec lesquels vous collaborez et des pièces peut-être qui sont encore écrites et on fait ça ensemble
comme... On a collaboré parce qu'un grand compositeur suisse, Richard Dubugnon, qui a écrit pour Janine Jensen, Gauthier Capuçon et plein d'autres artistes. Et effectivement, on a même donné masterclass sur ses œuvres à Bâle, en Suisse. C'est passionnant, oui. Et surtout quand. C'est comme avec des archetiers ou des luthiers, Edwin Clément, grand archetier. J'ai mon luthier aussi, Pierre Carado, qui est fantastique. Et c'est des gens qui sont vivants, donc on apprend énormément et on travaille ensemble. C'est la même conception, c'est une conception. La musique contemporaine, c'est de la recherche aussi. Chacun son style aussi de manière d'écrire. Hein. Il y en a qui sont plus atonales que d'autres. Mais c'est pareil, ça s'éloigne pas de la recherche artistique d'un peintre ou d'un architecte métier, évidemment, parce que je suis proche de ça, d'un sculpteur, c'est... le fait, c'est un avantage de pouvoir connaître. J'ai collaboré plus jeune aussi avec Nicolas Bacroy aussi, t'as des gens comme ça, qui sont vivants, quoi, donc c'est une chance, on apprend.
Et est-ce que certaines choses sont plus faciles que d'autres quand on est violoniste? Par exemple, est-ce qu'on est plus à l'aise avec un certain répertoire?
Ça dépend. Ça, moi, personnellement, je trouve que ça a toujours été depuis tout jeune qu'il faut aller du baroque à la musique contemporaine. C'est très important. Tout vient du baroque, déjà, du baroque classique. Donc une articulation, alors la diction, même quand on est dans un répertoire romantique, il faut avoir cette diction, cette articulation du classique, en fait, cette pureté quelque part, du texte et de la diction, de l'opéra aussi, il faut mettre des mots sur les notes. Et puis aussi entre les notes, très important de pouvoir lire entre les notes. D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne aussi beaucoup, voilà, d'aller loin dans les détails, beaucoup de détails. Et bon, en enseignant, on apprend aussi énormément, d'ailleurs, parce que des fois, on fait des choses naturellement. On doit déjà s'adapter à une personnalité et pas faire une copie de soi-même et développer la personnalité de chacun. Donc ça, c'est intéressant aussi pour soi-même, parce que ça approfondit aussi sa recherche, son travail, la patience aussi, enfin plein de choses. Et pareil, c'est aussi un complément. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au départ, mais voilà, l'enseignement depuis tout jeune. Moi, j'ai commencé à enseigner déjà à 15 ans à des jeunes, même plus âgés, des adultes, parfois amateurs. Ça a toujours été une passion.
Et, bon, ça plus
beau. C'est une jolie musique aussi.
Ouais, c'est beau.
Ah oui, c'est
incroyable.
C'est du soleil à la pluie.
Eh oui.
Attends, on est déjà à l'abri, c'est bien.
On était interrompu par l'orage en pleine. Donc maintenant, on est à l'intérieur. Et on parlait d'être musicien à l'âge numérique. Alors, qu'est-ce que ça implique d'être musicien classique aujourd'hui?
Ah, il faut savoir. Voilà, il y a pas mal de. J'avais entendu une phrase comme ça d'un grand artiste qui disait. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est un peu plutôt le faire savoir que le savoir-faire. Donc c'est assez intéressant, c'est vrai. Et il y a des gens qui deviennent très populaires parce que voilà, ils font savoir ou alors ils postent régulièrement. C'est plus on les voit. Mais en fait, il y a du bon dans tout. Il faut savoir utiliser parce que c'est un accès. C'est vrai que quand on achète un CD à une certaine époque, il y a la pochette, on se renseigne. Parfois, les gens ne savent même plus ce qu'ils écoutent, de quoi ça parle. Petite pochette, on peut dire historique, au moins un minimum. Donc en fait, si on sait s'en servir, je pense que c'est quand même très utile parce que on voit à l'international ce qui se passe dans le monde entier. On peut écouter un orchestre au bout du monde parce que par exemple l'orchestre philharmonique de Berlin, en américain ou en japonais, c'est accessible. Il y a le digital sur le site et on peut s'abonner, écouter des concerts magnifiques avec un son extraordinaire. Donc il y a quand même une visibilité internationale qui est intéressante. On peut être aussi en contact avec d'autres musiciens. On pourrait perdre de vue sans la technologie. Mais il faut peut-être faire parfois des pauses de tout ça et se centrer, pour rester vraiment centré sur soi-même. Parce que, on disait tout à l'heure en off, il faut aller vite, il faut aller lentement, il faut être connecté à soi-même et chercher la meilleure façon de bien mieux jouer. Donc c'est l'équilibre avec l'instrument, les jambes, le corps. Il faut aller lentement pour éclater très vite et se donner toute une énergie dans le concert et jouer très très bien. Il faut aussi prendre le temps de faire des pauses. Il y a des gens qui n'arrivent pas, par exemple, à éteindre le téléphone pour le travail personnel. Alors, professionnellement, on est obligé, quand on est en musique de chambre, à l'orchestre, ou à un concert, à jouer devant le public, on n'est pas avec le téléphone à la poche, mais dans le travail personnel, il faut aussi savoir le mettre dans une autre pièce. Parce que sinon, il y a une pression, les gens, ils l'ont lu mon message, pourquoi ils ne répondent pas? Mais non, pas ça. Moi, j'arrive à déconnecter très facilement. Il y a un temps pour chaque chose. Et, les gens qui savent que voilà, on répond avec profondeur aux choses et on est profond et c'est pas juste pour le faire. Il y a aussi ça, les contacts, parce qu'il y a les réseaux sociaux, YouTube, etc. Il y a aussi les messengers, les WhatsApp, etc. qui font que les gens se sentent obligés de répondre alors qu'ils sont peut-être en train de travailler, réfléchir. Donc c'est important ça peut être, c'est un atout, une accessibilité à ce qui se fait dans le monde de la musique et de se faire connaître aussi de manière naturelle. Mais il faut savoir quand même l'utiliser, il ne faut pas être sectaire, je trouve qu'il faut être modéré dans tout. Il faut pas accepter. Au contraire, c'est
Et qu'est-ce que vous voudriez nous partager comme enregistrement pour cette fin d'émission?
Pour cette fin d'émission, alors, très bonne question, j'ai pas réfléchi. Je pense peut-être éventuellement le mouvement lent de la fantaisie écossaise de Matko. J'ai joué avec l'orchestre, ou peut-être un enregistrement de Tchaïkovski avec ma femme, avec qui on va enregistrer d'ailleurs la saison prochaine, plein de projets d'enregistrement d'ailleurs. Voilà, pièce de Tchaïkovski, par exemple.
Et ces projets, on les trouve sur votre site ?
Oui, effectivement, oui, il y a mes projets, il y a mon actualité, il y a aussi des enregistrements, quelques extraits, et puis il y en aura encore plus de plus en plus. C'est infini, vous me demandiez quels sont mes rêves, il y en a plein de projets, surtout des associations avec des autres musiciens, enregistrements, concerts, tournées. Donc, voilà, on a des projets aussi toujours au Carnegie Hall avec Sylvie, en duo, à New York, et puis, en Suisse et partout.
Ça sent super. Merci beaucoup, Christophe. À bientôt.
Merci, c'était un plaisir. Merci pour cette interview et ces questions très pertinentes.
Oui, à une prochaine fois.
Thank you.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvel invité.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission Panadia Lichtig.